Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Tous les parents ont lu ou entreaperçu ces livres. Isabelle Filioza est notre invitée, source d'inspiration pour l'éducation bienveillante, de « J'ai tout essayé jusqu'au cœur des émotions de l'enfant ». Vos livres sont des best-sellers, conférence sur conférence qui affiche généralement complète, chaîne YouTube, nombreux parents avides de conseils pour canaliser les enfants qu'on dépeint souvent un peu plus agités qu'avant. Alors, est-ce qu'on peut être satisfait que vos conseils soient aussi attendus ou est-ce que c'est l'échec un peu de l'éducation aujourd'hui ?
Personnellement, je suis satisfaite, bien sûr, d'avoir une telle audience, qu'il y ait surtout une telle curiosité de la part des parents, un tel intérêt. De plus en plus de parents sont en question. Et les questions, c'est d'une part ce qui nous rend le plus intelligent et ce qui va nous permettre d'avoir la vie la plus heureuse avec nos enfants. Parce que si on se contente de répéter les automatismes de nos parents, eh bien, c'est sûr que ça se passe moins bien.
Bon, on peut imaginer une société idéale où on n'aurait pas besoin de vous.
Ah, j'espère bien qu'on n'aura pas besoin de moi. De toute façon, je ne serai pas éternelle, donc évidemment. Mais je ne sais pas si on n'aura pas besoin de moi ou de gens comme moi. En fait, on a toujours besoin d'informations. Mon travail, il est de concocter un peu toutes les nouvelles informations qui émergent un peu partout dans le monde. Des chercheurs travaillent sur le cerveau, travaillent sur ce qui se passe à l'intérieur de nos intestins, travaillent en psychologie sociale. On fait des expériences. Et ces expériences sont vraiment fondamentales parce que quelquefois, c'est contre-intuitif. Intuitivement, avec notre cerveau, on réfléchit, avec notre cœur, on fait. Et quelquefois, on se dit, accompagner un enfant avec amour, ça suffit. Et on ne mesure pas toujours l'impact de nos comportements. Notre cerveau est forcément limité par nos conceptions, par notre culture. Et la science, par les expérimentations, par les expériences, par les observations fines, nous permet d'ouvrir notre champ, de comprendre et de découvrir des choses. Donc, je ne crois pas que juste par amour, on pourrait découvrir, par exemple, que lorsqu'un enfant sent qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'avaler et qui se met à mâchouiller sa viande pendant une demi-heure et qu'il n'arrive pas à l'avaler, je ne vois pas comment, juste par amour, on pourrait découvrir que c'est son système voméronasal qui est hyperactif et qu'il suffirait d'aller une séance chez quelqu'un qui l'aide chez l'orthophoniste, une séance chez l'orthophoniste qui l'aide donc à tempérer la réactivité de son système voméronasal en frottant un peu son palais. Eh bien voilà, une séance suffit. Donc des informations comme ça, oui, c'est important pour moi de les fournir aux parents et j'espère bien qu'il y aura d'autres personnes comme moi plus tard dans le futur qui continueront d'abreuver les parents d'informations.
Les enfants sont-ils plus agités qu'avant ?
Oui.
C'est vrai, véridique ?
Oui.
Alors pourquoi ?
Pourquoi ? Pour de multiples raisons. Mais clairement, nous ne sommes plus dans le monde d'hier. Les enfants d'aujourd'hui ne vivent pas dans un environnement comme celui dans lequel nous avons été élevés. D'abord, il y a une surpopulation extrême, il y a beaucoup plus de stress, mais la nourriture a complètement été transformée. Ce que mangent les enfants aujourd'hui n'a rien à voir, même si, par exemple, on mangeait du pain et on mange encore du pain, ce pain n'a plus rien à voir, il n'y a pas de commune mesure, ce ne sont pas les mêmes molécules, il y a énormément de produits chimiques dedans. Vous avez cette petite mention qui est écrite sur un certain nombre de produits, des bonbons, mais aussi des raviolis, toutes sortes de produits, de plats préparés. Et cette mention, elle dit, ce colorant est susceptible de déclencher des déficits d'attention et de problèmes d'activité chez les enfants. À partir du moment où il y a ce genre de petites choses écrites sur un bonbon ou sur un ravioli, eh bien on peut penser qu'effectivement, l'enfant que nous allons avoir après qu'il ait consommé ce genre de choses ne va pas être tout à fait le même. Les enfants d'aujourd'hui ne bougent plus. Aujourd'hui, un petit bébé, il est déjà mis dans une coque, un transat, ensuite un yupala, ensuite il est très très souvent assis. La plupart des parents sont là sans arrêt à dire « assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi ». Ensuite il va à la crèche, à l'école, « assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi ». Et donc les enfants d'aujourd'hui sont assis beaucoup trop longtemps. Quand on est assis, on effondre son périnée. On n'arrive plus à tenir son dos. Les enfants d'aujourd'hui, donc, ont moins de capacité de régulation physique. Un enfant d'aujourd'hui court moins vite qu'un enfant d'il y a ne serait-ce que 20 ans. Un enfant d'aujourd'hui a moins de résistance physique. Il a moins de capacité oculomotrice. C'est-à-dire que là, si je veux toucher votre visage, je sais le faire facilement. Un enfant va avoir plus de mal parce qu'il a moins développé son système oculomoteur. Il y a de plus en plus de problèmes de convergence oculaire. Bref, il y a toutes sortes de problèmes qui font que les enfants d'aujourd'hui sont insécures dans leur corps, ils mesurent moins les distances, les rapports entre les profondeurs, etc., parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'éprouver dans leur corps, de se mesurer à un arbre, etc. Dans les maternelles, les écoles maternelles, on supprime les arbres de plus en plus. Donc les enfants ne peuvent pas grimper nulle part, sauf à des espaliers qui sont tous à la même hauteur, et donc petit à petit, leurs compétences physiques diminuent. Mais qui dit compétences physiques diminuent, dit aussi les capacités mentales. En même temps, les enfants ont une logique moins performante qu'il y a 10 ans. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que le QI commence à diminuer. C'est gravissime. Et donc, qui dit QI qui diminue, moins de capacité à réguler ses émotions, moins de capacité corporelle, ça fait effectivement des enfants qui sont beaucoup plus stressés et qui donc, du coup, vont s'agiter davantage.
Alors vous en avez parlé, je voulais vous poser la question. Les enfants sont de moins en moins sportifs. Je ne sais pas si le mot est bien choisi, Isabelle Filiosa, mais en tout cas, des études disent que sur un 400 mètres, par exemple, les enfants dans les années 70 couraient en 3 minutes. Aujourd'hui, c'est en 4 minutes. Est-ce qu'on est à l'aube d'un nouveau problème de santé ?
Tout à fait. On est même un peu plus qu'à l'aube, je pense que voilà, c'est le matin. Et donc on commence à se réveiller un petit peu et à découvrir que nos enfants ont un vrai problème. Dans une crèche, une assistante me disait, c'est impressionnant, avant les enfants ils bougeaient partout, aujourd'hui les enfants ils s'assiedent, ils ne bougent plus. Et en maternelle, les enfants s'assiedent, ils ont été beaucoup hyperactifs pendant un moment, maintenant ils sont de plus en plus assis, à peu bouger. Ils écoutent, ils attendent. Et oui, on ne mesure pas suffisamment combien le corps est essentiel. Il est essentiel de bouger pour pouvoir être intelligent, pour développer les capacités de son cerveau. Donc, pour faire mieux ses devoirs de maths, il vaut mieux pas rester assis à sa table, il vaut mieux bouger. Monter, grimper une demi-heure à un arbre, vous doublez vos capacités de mémoire. C'est énorme. Et donc, c'est vraiment hyper important. Et d'autre part, bouger, c'est ce qui rend heureux. Quand on bouge, quand on est musclé, quand on a son tonus musculaire présent et lorsqu'on arrive à développer son corps, eh bien, on sécrète de la dopamine, on sécrète une hormone qui est l'hormone de la joie. Plus on va être dans son corps, plus on a accès à la joie. La joie, c'est quand on saute, quand on bouge, et donc moins on bouge, plus on risque d'aller vers la dépression.
Alors on va rester dans les infos anxiogènes, Isabelle Filiosa. De plus en plus de pédiatres disent que, par exemple, il y a même des enfants aujourd'hui vers 3 ans qui ne répondent plus à leur prénom parce que les parents sont tout le temps sur leur smartphone. Ça aussi, on est à l'aube d'un gros problème.
Oui, tout à fait, c'est assez dramatique. J'observe, je voyage énormément pour aller donner des conférences ici ou là. Et donc, je suis souvent dans le train. Et dans le train, il y a des parents avec des enfants. Et trop souvent, je vois des parents qui sont sur leur smartphone. Les enfants aussi, chacun à leur tablette. Chacun est en rapport avec son petit objet électronique et ne communique plus pas suffisamment avec les enfants. Oui, c'est vraiment l'attachement. On ne mesure pas, c'est pas seulement l'amour. L'attachement, c'est répondre. C'est mimique que nous faisons. Et quand on échange par mimique, c'est pas pareil que quand on s'envoie un SMS. Donc oui, je le conseille, même dans mes livres, on peut écrire un SMS à un enfant pour lui dire « douche ». Comme ça, hop, il va prendre sa douche. Mais c'est ponctuel. C'est juste pour faire un petit rappel, pas pour communiquer au quotidien.
Alors vous, Isabelle Filiosa, ministre de l'Éducation, j'ai pas dit présidente, j'ai dit ministre de l'Éducation, ça donne quoi ?
Oh, hélas, quand on est ministre, on peut pas grand-chose. Et donc, je préfère être présidente, si vous voulez bien. J'aurais peut-être un peu plus de pouvoir. Je ne sais pas, à vrai dire, ce qu'a comme pouvoir réel un président. Mais je sais qu'un ministre a très, très peu de pouvoir. J'ai pu en être témoin plusieurs fois. Donc, je ne sais pas ce que je pourrais faire si j'étais ministre.
Alors, si on vous donne la possibilité de changer la donne, pas en tant que ministre, pas en tant que présidente, mais je ne sais pas, on vous donne le pouvoir de pouvoir changer un peu l'éducation, qu'est-ce que vous faites ? Première mesure.
Alors la première mesure, c'est bien sûr d'interdire tous les coups, humiliations, fessées, gifles, etc. Interdire vraiment clairement les châtiments corporels et les châtiments tout court en fait. Et puis, je déclenche un gros travail de formation des parents et d'information des parents pour fournir des alternatives. Parce qu'en fait, si les parents sont violents, se montrent parfois violents envers leurs enfants, même des petites violences ordinaires, c'est parce qu'ils ne mesurent pas que ce sont des violences, d'une part, et d'autre part, parce qu'ils ne savent pas comment faire autrement. Donc, tout mon travail, il consiste à fournir un maximum d'options, fournir des idées, trouver des alternatives de comportement. Une chose que je ferai beaucoup, c'est vraiment promouvoir le fabuleux travail de Priscilla Dunstan. Priscilla Dunstan est une Australienne et elle a décodé, grâce à son oreille absolue, les pleurs des bébés. Et grâce à elle, quand on entend un bébé pleurer, on sait ce qu'il veut. Moi, quand mes enfants pleuraient, ben, j'essayais un peu tout, comme toutes les mamans. Un coup, on le prend dans les bras, ça calme pas. Bon, on berce un peu pour essayer de l'endormir, ça calme pas. On lui donne le sein, on essaye plein de trucs. On travaille par essais et erreurs. Et le problème, c'est que si, par exemple, le bébé pleurait, alors Priscilla Dunstan, s'il dit « ow », ça veut dire « j'ai sommeil ». Et donc, imaginons, le bébé dit « ow, ow, ow », et moi, gentil, hop, je lui donne le sein. Parce que c'est le premier réflexe, hop. Donc évidemment, il prend le sein, parce que c'est toujours bon le sein de maman. Mais le truc, c'est que je l'ai réveillé. Et du coup, il ne pourra se réendormir qu'à son train de sommeil suivant. Et on est comme ça dans des exaspérations, on ne comprend pas, on se sent démuni. Trop de parents sont en dépression parce qu'ils n'arrivent pas à répondre aux besoins de leur bébé. Et trop de bébés sont dans cette impuissance à se faire comprendre. Parce que si on se met à la place d'un bébé qui cherche à dire « j'ai sommeil » ou alors « j'ai faim » et que sa maman galère, son papa galère à trouver ce qu'il y a, bien, il se sent vraiment extrêmement mal à l'intérieur et tellement impuissant. Et le problème, c'est que plus tard, cette sensation d'impuissance à se faire comprendre, elle va ressortir. Et une fois adulte, eh bien, ça va se transformer en jeu de pouvoir sur autrui. Donc, c'est vraiment, je pense que son travail peut vraiment faire une immense différence dans le monde. Donc, aider les parents à comprendre. Un bébé qui dit « nais », ça veut dire « j'ai faim ». Un bébé qui dit « ow », j'ai sommeil. Et comme ça, elle a décrit différents sons que j'ai fait traduire son livre. Ça s'appelle, on le trouve sur ilpleure.com. Ça s'appelle « il pleure, que dit-il ».
Alors Isabelle Filosa, on voit que au niveau de l'éducation, on s'appuie de plus en plus, alors bien sûr sur vos livres, entre autres, d'autres, sur des conférences, puis sur par exemple des psychomotriciennes. Et tout ça, ça coûte cher quand même pour les parents. Tous les parents ne peuvent pas se le payer. Vous auriez aussi peut-être comme ça des envies que ça soit remboursé ?
Clairement, remboursé, ou peut-être qu'on fonctionne, que toute notre société fonctionne autrement avec l'argent. Si nous avions un revenu inconditionnel de base, toutes ces questions seraient transformées. Le revenu inconditionnel de base est vraiment quelque chose qui peut changer le monde. Et donc finalement, si je suis présidente, c'est ça que je fais en premier. Un revenu inconditionnel de base, ça veut dire un revenu pour chaque enfant à partir de sa naissance et jusqu'à sa mort. Chaque être humain reçoit un revenu décent, un revenu suffisant pour vivre et donc pour se fournir toutes ces informations, pour aller chercher, pour recevoir les soins dont on a besoin.
C'est pas la mode, parce qu'en ce moment on dit il y a moins d'argent pour la culture, il y a moins d'argent pour l'éducation, on n'en parle même pas d'ailleurs, il y a moins d'argent pour la recherche, bon il y a un peu plus d'argent pour la sécurité. Vraiment, ça vous donne pas envie de rentrer en politique ?
Justement, non. Parce que en politique, malheureusement, même si la politique à l'origine, c'est améliorer la vie des citoyens, la réalité de la vie politique, elle est davantage des jeux de pouvoir, manifestement. Et je ne pense pas que j'ai suffisamment le goût du pouvoir pour pouvoir entrer en politique. Mais entrer en politique dans le sens de fournir des ressources aux politiques pour améliorer la vie de mes concitoyens, ça, oui, bien sûr, je suis prête.
Il y a un député qui dit la politique, c'est pas seulement d'être élu, il faut vraiment dissocier les choses. Il y a la politique qu'on peut faire sans être élu et il y a la politique où on est élu. Donc peut-être politique sans être élu.
Finalement, pour moi, c'est ce que je fais. Et dans mon livre « Un zeste de conscience dans la cuisine », je souligne combien chacun de nos actes est politique. Et que finalement, ce que je choisis à chaque instant, c'est un acte politique. Et donc je vis ma vie, je tente de vivre ma vie au maximum avec cette conscience politique. Chaque fois que je pose un acte, c'est un acte politique. C'est-à-dire qu'il y a un impact sur autrui.
Alors on parle de plus en plus de neuroéducation maintenant. On commence à en comprendre un peu quelles réactions chimiques il se passe dans le cerveau d'un enfant lorsqu'on l'éduque, lorsqu'on crie, lorsqu'on le fait manger, etc. Est-ce que vous commencez à vous appuyer dessus ?
Oui, tout à fait. À vrai dire, je m'appuie sur les sciences depuis toujours. J'ai commencé mon métier avant d'être psychothérapeute. En fait, j'avais choisi médecine et je voulais être chercheur en biologie. C'est juste en découvrant que ce que je voulais faire, chercheur en biologie, ça pouvait consister à rester 9 ans à travailler sur une crête de mitochondrie. Une mitochondrie, c'est un poumon de cellules, donc une crête de mitochondrie, 9 ans sur une crête de mitochondrie, je me suis dit, je ne tiendrai pas. Donc j'ai arrêté, mais j'ai toujours gardé ce goût des sciences, et c'est pour ça que depuis toujours, je m'abreuve à toute la littérature scientifique, je lis ce qui sort, ce qui se passe, je suis passionnée par toute cette compréhension que nous pouvons avoir de notre cerveau, de notre biochimie, etc. Donc, et je suis très très contente que les scientifiques aujourd'hui explorent de plus en plus le cerveau des enfants et surtout ce qui se passe en direct. Grâce à l'IRM fonctionnel, on voit des choses fantastiques et donc tout ça nous donne beaucoup d'informations dont bien sûr je me sers, je m'appuie dessus parce que ça vient vraiment nous éclairer différemment les choses. Ça nous permet de ne plus être dans « Ah, je pense que… » On n'est plus dans des interprétations de ce que vit l'enfant, mais voilà, l'enfant, il se passe ça dans son cerveau.
Est-ce que ça veut dire que ça doit aussi rentrer dans l'école, ce genre de science ?
Oui, je ne vois même pas comment ça pourrait ne pas, à moins d'être uniquement dans le pouvoir sur les enfants mais, et dans nos habitudes anciennes. C'est vrai que ça va nécessiter un petit peu de mouvement, mais c'est vraiment extrêmement important que nous réalisions que la manière de fonctionner traditionnelle dans les écoles est vraiment contre les cerveaux des enfants et que si nous voulons respecter le fonctionnement du cerveau, nous avons vraiment besoin de fonctionner différemment et que le potentiel de chacun peut être beaucoup plus… le potentiel de chaque enfant peut être exploité, enfin exploité c'est un mauvais mot, mais peut être renforcé, épanoui bien autrement.
Et on vous écoute dans le système éducatif aujourd'hui ?
Dans le système éducatif, je ne sais pas, mais j'avais eu la chance d'être un peu écoutée par Ségolène Royal quand elle était ministre. J'avais eu la chance, je suis un peu écoutée de temps en temps par une personne ou une autre. Et je pense que ces idées ne sont pas seulement les miennes d'ailleurs, elles sont celles de la science, celles des neurosciences. Catherine Guéguen, qui est pédiatre, apporte aussi vraiment des choses très très importantes. Je suis quand même de plus en plus demandée dans l'éducation nationale, donc j'y interviens. Je fais des conférences, mes élèves ils font de plus en plus d'actions de formation. Donc oui, il y a un petit mouvement qui commence, grâce aussi au livre de Céline Alvarez qui montre comment on peut changer les choses à l'intérieur du système. Parce que moi, je ne suis pas à l'intérieur du système, donc c'est un petit peu plus difficile. Mais oui, petit à petit, ça se fait. Mais ça ne se fera que grâce à une pression des parents. Et c'est aussi là que nous avons un énorme travail à faire parce que si l'école n'avance pas, ne progresse pas, c'est beaucoup parce que les parents la maintiennent en arrière. C'est vrai qu'il y a des parents qui désirent une autre forme d'éducation, mais quand un enseignant désire faire autrement, par exemple, ne serait-ce que arrêter de donner des notes, même si tout le monde sait et toutes les études montrent que quand on donne des notes, ça diminue les capacités d'apprentissage des enfants, eh bien, malgré ça, il y a des parents qui vont crier contre l'enseignant, voire demander que leur enfant change de classe parce que le prof n'est pas assez sévère, parce que le prof ne donne pas assez de devoirs ou parce que le prof ne donne pas de notes. Donc, il y a quand même à transformer la société et c'est à ça que je consacre mon temps maintenant. C'est vraiment à changer les perceptions des parents et des enseignants pour que petit à petit, tout le monde change.
Alors pour terminer, est-ce que, alors vous dites, je ne donne jamais de conseils, alors des
Ils
suggestions.
J'en ai donné un en planning de vente, voilà, je suis sûre que tu vas le faire, et voilà, donc on fait tous des erreurs.
Alors pour terminer, donc quelques conseils comme ça, suggestions que vous pourriez donner aux parents, parce qu'on sait tous qu'on fait des erreurs, il y a, hormis la violence, on commet quelques erreurs, mais est-ce que vous pourriez donner des petites choses qui peuvent changer chaque jour?
Alors une chose qui peut changer l'atmosphère chaque jour, c'est déjà nourrir le réservoir émotionnel de l'enfant, c'est-à-dire lui fournir de l'attachement. C'est pas seulement de l'amour, c'est pas je regarde mon enfant avec les yeux et m'amourer, pas seulement, c'est répondre. L'attachement, c'est répondre aux interactions et avoir le sourire. Plus on sourit à un enfant, plus on lui montre qu'il nous rend heureux, qu'on est heureux à son contact, plus ça le remplit, ça le charge en émotions positives, ça diminue son taux de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone de stress, donc ça va lui permettre de passer une meilleure journée. Donc, dès le matin, je lui consacre 10 minutes d'attention. J'ai pas le temps, ok, 5 minutes. J'ai pas le temps, ok, même 10 secondes, un clin d'œil. Je mets mon nez rouge, quelques secondes, je lui souris. On est en train de se fâcher, je dis stop. Je lui fais un grand sourire, je lui dis je t'aime, avant qu'il parte à l'école. Et hop, ça remplit le réservoir.
Alors donner de l'amour dans une société où il n'y a plus beaucoup d'amour, c'est compliqué quand même, non?
Je sais pas s'il n'y a plus beaucoup d'amour et... Je ne sais pas s'il y a plus ou moins d'amour. Je ne suis pas sociologue, donc je ne dirais pas ça. Je ne sais pas s'il y a plus.
Allez, une société plus tendue.
La société d'aujourd'hui est extrêmement tendue, mais bon, elle s'était tendue aussi autrement avant. C'est différemment tendue. Nous sommes quand même dans une société où nous désirons aimer de plus en plus. S'il y a tant de divorces, ce n'est pas pour le plaisir du divorce, c'est aussi parce que nous désirons aimer davantage. Si les parents d'aujourd'hui cherchent davantage de réponses, c'est parce qu'ils veulent être heureux avec leurs enfants. Avant, on ne se posait même pas la question. Ce n'est pas parce qu'il y avait plus d'amour, hein. C'était juste parce qu'on ne se posait pas de question d'amour. On se disait, bon, bah, je vis avec cet homme-là, j'ai mes enfants, ok, je les éduque comme ci, comme ça. Mais on était plus dans le fatalisme et dans la répression émotionnelle. Aujourd'hui, on a le sentiment d'avoir le droit. On veut être heureux. Et pourquoi pas?
Et pour les prochaines années, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter?
À moi? Eh bien, la meilleure santé possible pour pouvoir continuer de glaner des informations nouvelles et de pouvoir les transmettre.
Et donc, vous avez des projets de prochains livres ou autres? Films, documentaires?
Tout ça. Donc oui, j'ai d'abord un livre sur les adolescents, hein, puisque j'ai publié « J'ai tout essayé » pour les 1 à 5 ans. Ensuite, « Ils me cherchent » pour 6, 11 ans. Et la suite arrive. Donc les 11, 17 ans va sortir en septembre prochain.
Il y a du boulot aussi là, non?
C'est clair, donc c'est un plus gros pavé que les autres. Il y a beaucoup, beaucoup de dimensions. Et puis là aussi, le monde a changé. Hein. Le monde dans lequel vivent nos adolescents n'a rien à voir du tout avec celui que nous avons connu. Les écrans, la drogue n'est plus la même. Enfin bref, tout a vraiment augmenté. Les risques ont été démultipliés. Donc c'est vrai que c'est une période particulièrement sensible et délicate. Et puis films, oui, plusieurs projets de films. Alors non pas que j'initie, sauf si un film sur le travail de Priscilla Dunstan pour justement pouvoir rendre public et donner cette information qui est vraiment une révolution pour moi. Comment comprendre les pleurs des bébés? Ça oui, je travaille à ça.
Isabelle Filioza, merci.
Merci à vous et à très bientôt à tous.
Hey, the bird.
L'interview du jour. L'interview du jour.